Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Au Capi Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Les habitants de certains territoires de la RDC ne cessent de décrier les dégâts causés par des éléphants à leur passage ravagent les champs des paysans, ce qui incite parfois la population à tuer ces certains pachydermes, c'est-à-dire à tuer ces certains éléphants. Avec notre invité, on va chercher à savoir comment bien encadrer les mouvements saisonniers des éléphants en RDC. Je rappelle le numéro des contacts si vous êtes intéressé par ces sujets, c'est les 081 890 63 94. Alors, pour ce Moutamboué Changona a pris dernièrement dans une province du pays où la population a été très très en colère et il y a même un éléphant qui a été tué simplement parce que ils ont ravagé tout ce qu'il avait comme champ et cela a provoqué la colère de la population. Alors, parlons un peu de ce mouvement saisonnier des éléphants. C'est courant comme ça chez les éléphants à une certaine période de quitter d'un lieu à un autre.
Ben, les éléphants, c'est comme nous. Ce sont des êtres vivants en quête de quoi nouer leur bout de moi, c'est-à-dire à manger. c'est normal. Ce sont des êtres en quête de leur nourriture, c'est point très. Donc, ce n'est pas un phénomène surnaturel, c'est un phénomène naturel.
Mais là, ils vont, c'est quand lorsqu'ils sont en quête de nourriture, là, ils vont dans les champs des paysans.
En fait, les éléphants, c'est ce qu'on appelle les boulevards. Je ne sais pas si vous le savez. Les boulevards, ce sont des chemins ou des sentiers créés par les éléphants. Comment et pourquoi? C'est dans ces boulevards où ils cherchent, où ils trouvent de quoi manger. Donc, et ils font des kilomètres et des kilomètres. Ok? Au fur et à mesure qu'ils trouvent à manger.
Et comprenons bien quand vous parlez de boulevards. C'est-à-dire quoi? Il y a des lieux de passage.
Mais ce sont des boulevards comme non-boulevards à nous. En forêt, là où passent les éléphants, ce sont des boulevards. Vous pouvez faire circuler même une voiture. En forêt. Et ça, c'est partout où vous trouvez, là où il y a des éléphants, il y a toujours des boulevards. Et c'est dans ces boulevards où ils mangent. En fait, les éléphants sont des herbivores. Donc, oui. Ils mangent le feuille qu'ils rencontrent. Donc, si dans leur boulevard ou dans les zones où ils vivent, il n'y a pas à manger, et qu'ils trouvent un site où ils vont trouver à manger, ils vont le manger. Ils vont aller manger.
Mais qu'est-ce qui fait que sur leur boulevard il n'a pas mangé? Qu'est-ce qui peut être à la base de cela?
Mais non, mais ils mangent tous les jours. Vous savez les quantités d'herbes que les éléphants mangent? Ce sont des dizaines de kilos. Alors s'ils font sur 20 kilomètres, ils passent pendant un mois le long des boulevards là, mais c'est fini. Ils vont encore prolonger leur boulevard ou créer d'autres boulevards de la région. Et si dans la région il y a un chat, c'est normal, et qu'il mange là-bas. Moi-même, je me rappelle quand nous étions jeunes, et il y a les éléphants qui venaient saccager les champs de nos mamans, mais on savait comment les chasser.
Et vous faisiez comment?
Ben c'est simple. Vous prenez le bison, donc vous faites les mamans là, comment le bois, hein? Quand il y a le feu, vous jetez. L'éléphant n'aime pas le feu, il fuit. C'est tout.
Donc c'est pas aussi compliqué que ça. Il suffit d'allumer du feu.
L'éléphant, c'est l'animal le plus facile à chasser. Je peux vous assurer.
Et c'est une pratique qui marche sans problème.
Mais j'ai vécu moi-même dans ma région, Lomela, le territoire de Lomela. À mon époque, les éléphants venaient manger les bananiers au champ et ils étaient là. Je dis, je me rappelle même à un moment donné, les éléphants qui venaient boire du vin de palme. Et le vin de palme, il y avait des abeilles. Imaginez-vous, l'abeille qui pique l'éléphant, ben l'éléphant qui se fâche et qui détruit les hameaux que nous on occupait et tout ça. Mais il suffit d'avoir un foyer. Quand l'éléphant voit le feu, c'est fini, il fuit, c'est tout.
Mais pour ça, comment faire pour empêcher à ce que les éléphants quittent leur boulevard pour ravager les champs? Comment on peut encadrer? On ne peut pas.
Il y a même un projet géré par notre compatriote. Il est basé à Libreville, au Cameroun. Le projet Mike, le conflit homme-éléphant, ça c'est un phénomène qui est naturel.
Il y a toujours eu ces conflits homme-éléphant, qui quittent la forêt, les boulevards pour venir ravager les champs.
Exact. Et le problème qu'il y a, est que tout le monde tient à sauvegarder les éléphants, mais les dégâts causés, personne n'en tient compte. Et je sais que dans certains coins, on a commencé à mettre des fils électriques pour empêcher les éléphants de passer du côté où il y a des champs. Mais écoutez, si dans un certain nombre de pays, on peut le faire, mais en RDC, je ne sais pas si c'est possible. Parce que bon, je ne connais pas la densité actuellement, mais je me rappelle, quand j'étais dernièrement à Monkoto, on a compté de plusieurs milliers à Monkoto. Mais vous allez faire quoi? Mettre quoi? Mais le système traditionnel que je venais de raconter ici, vraiment quand l'éléphant voit la flamme comme ça là, surtout la nuit, il fouille sans problème.
Donc c'est une pratique que vous conseillez en tout cas aux personnes concernées, aux villageois, aux paysans qui ont des champs.
Oui.
Sauf qu'il y a ces mouvements d'éléphants, il faut allumer simplement le feu.
Oui.
Un petit feu ou bien du grand feu?
Il suffit qu'il y ait de flammes. Je viens de le pratiquer même il y a une année au Gabon. Nous venons de créer une réserve où il y a une concentration d'éléphants. La réserve de Moba, c'est l'œuvre de votre professeur Moutamboué au Gabon. On a pu monter des miradors pour permettre aux touristes de venir apprécier les éléphants qui font leur défilé. Mais nous-mêmes, là où on habitait, dans les petites huttes qu'on avait construites, ben, la nuit, on était tout le temps visité par les éléphants. Mais qu'est-ce qu'on fait? On faisait le feu du camp. Et tant qu'il y a le feu, aucun éléphant venait nous visiter. Mais il suffit qu'il y ait la pluie, mais après la pluie, on était entouré par les éléphants. Vous comprenez?
Voilà, comment bien encadrer les mouvements saisonniers des éléphants en RDC? Professeur Moutamboué Shango, environnementaliste, est notre invité pour en parler. Si vous êtes témoin, vous habitez dans un coin du pays où vous avez déjà assisté à ces genres de ravages causés dans les champs par des éléphants. Peut-être vous avez aussi ces témoignages de cette pratique simple de chasser les éléphants en allumant du feu. En tout cas, n'hésitez pas, appelez-nous au 081-890-6394. Il vous suffit seulement d'appeler. Nous, on se fera le plaisir de vous rappeler.
Okapi Soir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les infos sport toutes les demi-heures. De 16h à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Georges nous appelle de Manono, Jean-Cy est à Kinshasa, Jiré est à Bandundu. Bonjour Georges.
Bonjour, monsieur Marcel, le Mgombo Mbalakeba. Bonjour aussi à monsieur le professeur Moutango Isambo. Oui, avant de poser quelques questions à notre invité, je dois d'abord partir de la situation du soutenu, monsieur Marcel. Ici à Manono, il y a à plus ou moins 45 km, on a vu beaucoup d'éléphants et qui est venu. Ils ont ravagé des champs. Après, ils ont même parvenu à tuer une personne. C'est une situation qui se produit surtout ici chez nous à Manono. Alors, j'aimerais demander à monsieur l'invité, qu'est-ce qui provoque le mouvement saisonnier des éléphants? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, et j'aimerais lui demander si il peut nous proposer les prévisions que doit prendre la population lorsque les éléphants se trouvent à quelques kilomètres de leur village. Parce que quand ils sont venus ici chez nous, ils se trouvaient à quelques kilomètres du village, alors qu'il y avait la curiosité des gens qui avaient encore vu les éléphants, certains. Et parvenait même à s'approcher de ce qui parvenait à tuer certaines personnes. Ça, c'est la deuxième préoccupation. Et lorsque les éléphants attaquent les habitants ici, que doit faire la population pour essayer d'être de se sauver? Ça, c'est la deuxième préoccupation. C'est la troisième préoccupation. Voilà tout, monsieur Marcel.
Merci, Georges, depuis Manono, à Kinshasa. Jean-Cy est en ligne. Bonjour, Jean-Cy.
Bonjour, monsieur Marcel, et bonjour également à l'invité et à ceux qui nous suivent présents autour de le territoire national.
On vous écoute, Jean-Cy.
Oui, j'aimerais que l'invité nous donne certaines précautions ou astuces qui puissent nous permettre surtout aux habitants des milieux ruraux de pouvoir expulser les éléphants, surtout ceux qui viennent ravager leurs champs. Et aussi, j'aimerais qu'ils nous disent un peu dans quelle entité ou dans quel coin du pays on trouve la majorité des éléphants. Et jusque-là, quelles sont les mesures qui ont été prises pour leur bon élevage et afin d'éviter les ravagements qu'ils causent de temps en temps. Merci beaucoup.
Merci, Jean-Cy, depuis Kinshasa. Jirès, vous êtes à Bandundu. Bonjour, Jirès.
Bonjour, je vous dis merci beaucoup pour la parole. Je vous félicite aussi pour l'intérêt accordé au sujet. Personne n'ignore que les éléphants contribuent grandement à l'équilibre de l'écologie. Mais le fait de les voir déjà sortis de leur habitat naturel, est-ce que cela n'est pas un signe qu'ils sont en surnombre? Alors s'ils sont en surnombre, et pourquoi ne pas les éliminer? Et j'invite aussi à nous dire à combien peut-on estimer la population des éléphants.
Merci, Jirès, depuis Bandundu. Professeur Moutambo Shango, vous avez suivi d'abord Georges qui nous a appelé de Manono. Il a dit, il y a encore quelques temps, il y a des éléphants qui ont fait des ravages à 45 km de Manono, alors que il a cherché les chasses, donc à savoir qu'est-ce qui explique ce mouvement saisonnier des éléphants, et puis les dispositions à prendre lorsque la population sait déjà qu'il y a des éléphants qui sont dans les parages et qui peuvent peut-être arriver du côté où vous vous trouvez. Et puis il a également demandé à lorsque les dispositions à prendre lorsque les éléphants vous attaquent, bien arrivent là où vous habitez.
C'est simple. Je l'ai dit, les éléphants ont des sites pour leur alimentation, ont des sites pour leur amusement. Vous voyez? Alors, si les conditions ne sont plus réunies, ben, ils cherchent là où ils peuvent trouver les meilleures conditions. Vous comprenez? Je peux vous dire, par exemple, que les éléphants aiment les zones humides, donc les marécages. C'est marécageux, et là où ils trouvent beaucoup de maratacés comme source de nourriture. Si maintenant ces milliers deviennent impossibles à vivre pour eux, ben c'est normal qu'ils aillent ailleurs. S'ils trouvent ailleurs qu'il y a un champ du riz, comme je venais de le dire, moi je l'ai vécu quand j'étais jeune, mais ils seront là tous les soirs, s'il vous plaît, manger le riz. Et c'est ça le conflit homme-éléphant. Le problème qui se pose, pas seulement chez nous, c'est que les lois des pays prévoient des sanctions pour les braconniers. Mais il n'y a pas de loi qui prévoit les conséquences que les éléphants créent aux populations. L'éléphant est venu faire saccager un champ. Qui doit payer les conséquences? En tout cas, je n'ai pas encore entendu que notre institution nationale communément appelée ICCN a dédommagé les personnes qui ont été attaquée par les éléphants. Je n'ai pas encore entendu ça. C'est ça le gros des problèmes. Donc, il faut éviter. Et je vous ai dit que dans certains pays, on utilise des clôtures électriques, mais ça n'a toujours pas marché. Au Congo-Brazzaville, ici, au parc des Konkwati, on a essayé d'utiliser les...
On a essayé d'utiliser les
fils électriques, ça n'a pas marché. Donc, moi, je vous dis, quand j'étais jeune, on utilisait le feu. Et aujourd'hui, il y a une année, je le faisais au Gabon, toujours le feu du camp, et les éléphants prenaient fuite. Et on sait, ils s'annoncent, quand ils viennent, des fois ils crient. À ce moment-là, vous prenez les précautions.
Mais parce que quand vous parlez du conflit homme-éléphant qui a toujours existé depuis la nuit des temps, on aimerait savoir par rapport à l'ampleur, est-ce que ces conflits des éléphants qui viennent ravager les champs, ça a toujours été le cas, ou bien avec le temps ça a pris de l'ampleur? Là il faut chercher à savoir, est-ce que c'est parce que l'homme s'est approché plus de l'habitat de l'éléphant, s'est plus approché de la forêt?
Non, mais écoutez, je vous dis, les éléphants, les boulevards des éléphants font des kilomètres. Ça fait des kilomètres. Je vous ai dit, ce sont des êtres vivants en quête de leur nourriture. Je ne dis pas qu'il faut le tourisme, mais ils se déplacent.
Pour chercher de quoi manger.
De quoi manger.
Et bon. Vous mangez, vous avez dit des quantités.
Il peut aussi avoir la surpopulation, parce que c'est qu'il y a un, comme l'autre auditeur l'a dit, il peut y avoir la surpopulation dans certains coins. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la charge. La charge d'éléphant peut dépasser le millier. Et à ce moment-là, c'est normal qu'il fasse des dégâts un peu partout pour trouver de quoi manger.
Et vous avez suivi également cette question, on a demandé dans quel coin du pays on trouve beaucoup d'éléphants.
Les éléphants chez nous, ça dépend. Il y a des éléphants de forêt et il y a des éléphants de savane. Pour les éléphants, je sais que dans la forêt équatoriale, il y en a en quantité jusqu'aujourd'hui. La densité, en tout cas, je ne connais pas. Je ne connais pas la densité, mais je sais qu'il y a des institutions qui font des inventaires, tels le WCS, qui fait les inventaires, sur les éléphants, et peuvent peut-être avoir les densités qu'il faut. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on fait beaucoup des inventaires dans les aires protégées. Or, les aires protégées ne représentent que 11% de notre territoire national. Est-ce que le chiffre donné reflète la réalité? Ça, c'est un point d'interrogation.
Professeur, on entend souvent parler aussi de l'éléphant qui contribue à l'équilibre de l'écosystème, de gérer ses revenus sur ça. Qu'est-ce qu'il faut comprendre que l'éléphant contribue à l'équilibre?
Mais c'est vrai. Je peux vous dire que l'éléphant joue un rôle très important dans le fonctionnement des écosystèmes, comme les moustiques d'ailleurs.
Même quand les moustiques nous piquent, qui sont vecteurs de la malaria, mais ils jouent un rôle important dans l'écosystème.
Mais alors, ils ont droit à manger, non?
Alors, parlons d'abord de l'éléphant.
L'éléphant joue un rôle très important. Je vous donne un exemple simple où je viens de faire des recherches avec beaucoup de publications scientifiques. C'est ce que j'ai fait au Gabon.
Oui.
Les éléphants viennent dans ce qu'on appelle les salines ou les bayes, c'est-à-dire que les zones marécageuses salées. Les éléphants viennent là parce que l'eau salée, ça les protège contre les gales. Et puis, quand ils boivent cette eau, ça les aide aussi contre les maladies intestinales.
Oui.
Vous comprenez? Donc, c'est une façon de se soigner naturellement. Mais dans ces eaux-là, ils font caca, ils font pipi. Et en faisant caca et pipi, ils font fertiliser l'eau. Et quand ils fertilisent l'eau, il y a la production de ce qu'on appelle des zooplanctons et des phytoplanctons. Et avec la présence des phytos et des zooplanctons, il y a les poissons qui mangent ces zoos et phytoplanctons. Donc, fertilisation de l'eau, production primaire, présence des poissons.
Donc, si je comprends bien, donc, donc très simplement.
Mais je n'ai pas encore terminé.
C'est déjà intéressant, c'est au niveau professeur. Donc, très simplement, oui. Lorsque les éléphants ne défèquent plus dans ces eaux-là, les poissons n'ont plus de quoi manger.
Je ne dis pas qu'ils n'ont plus, parce que il y a les herbes qui pourrissent aussi, ils peuvent, mais je dis que les éléphants favorisent. Ok? Mais je peux encore vous dire, dans ces eaux, il y a des antilopes qui viennent dans les marécages.
Oui.
Et ces antilopes viennent manger le caca, des éléphants. Alors, ce qui est curieux, et on est en train de faire des recherches, les éléphants mangent des graines, mais ces graines ne poussent pas. Ok? Mais une fois bouffés par, mangés par les antilopes, ils germent. Alors maintenant, on est en train de chercher pourquoi est-ce que le grain consommé par les éléphants ne germe pas, mais une fois mangé par les antilopes, ça germe.
Mais quand vous dites germer, c'est-à-dire?
Pousser.
Ah, voilà.
Voilà. Vous voyez, ça c'est un sujet de recherche. Il y a un étudiant qui fait une thèse de doctorat là-dessus. Mais ça ne suffit pas. Cette fertilisation fait pousser les maratacées. Les maratacées, ce sont les feuilles qu'on fait, les mabouques ici chez nous.
Oui.
Et c'est la source de nourriture aussi des éléphants et des antilopes, des buffles y compris.
C'est très intéressant tout ça, donc, professeur. On va poursuivre avec d'autres auditeurs qui sont en ligne. Pascal, qui nous appelle du Zéro dans les Hautes-Uélie. Plutôt Serge, qui nous appelle du Zéro dans les Hautes-Uélie. Pascal, lui, est à Komanda, Nitori. Et Klemanda est à Kananga. Donc, si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, nous sommes en train d'aborder un sujet très intéressant avec le professeur Mutambwe Shango sur comment bien encadrer les mouvements saisonniers des éléphants en RDC. Donc, vous pouvez nous appeler au 081 890 63 94.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Kouté sur Radio Okapi.
Voilà, Serge nous appelle Digiro dans le Hautes-Uélie. Bonjour Serge. Serge, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, c'est pas Serge, c'est Prince.
Prince depuis Zéro. Prince, vous êtes à Zéro, c'est ça?
Ok,
Prince, voulez-vous fermer votre radio? Vous allez nous suivre avec votre téléphone portable. Hein, autrement, la communication sera très très mauvaise avec cet effet de retour. Fermez votre radio, s'il vous plaît, Serge.
Donc, je me suis cassé de la radio. Je voulais intervenir ceci. Je salue d'abord l'invité. Et je salue Gilles, je ne sais pas. Mon intervention est ceci. Les éléphants ont une grande importance. Hein. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé les éléphants. Mais quand les éléphants trouvent le chat de riz comme ça, pour eux, c'est une satisfaction. Hein, ils peuvent manger, ils peuvent consommer à leur faim. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence. Ils se servent par l'instinct. L'homme a l'intelligence maintenant. C'est l'homme qui doit savoir comment guider les animaux. Il ne faut pas les tuer comme ça. C'est une créature de Dieu. Dieu ne les a pas créés pour rien. Mais quelque part, nous disons, il y a des gens là, des malheureux, ils vivent souvent par de leur culture, là où ils s'aiment, par leurs champs. Quand les éléphants ravagent leurs champs, quand est-ce que ces pauvres gens-là vont vivre? L'État va se quitter. C'est mieux que l'État puisse encadrer nos parcs, tout ça, pour gérer aussi la population. Parce que la population a une grande importance aussi. Il ne faut pas seulement gérer les animaux et laisser les hommes mourir comme ça. C'était tout ça. Je vous remercie beaucoup.
Voilà, là, c'était Serge qui nous appelait Non, plutôt là, je parlais de Prince, hein. C'était Prince qui nous appelait Diziro. Merci Prince d'avoir appelé Diziro dans les Hautes-Vélies. On va se rendre à Commandant Nitori et on va retrouver Pascal. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Marcel Ngombombala. Et je salue aussi l'invité.
On vous écoute Pascal.
Oui, j'ai des questions à poser à l'invité.
Allez-y.
Ok, il y a d'abord, j'ai quelques lacunes dans ma tête. Il y a une différence qui existe entre le mouvement des transmans des éléphants et le boulevard, ce que l'invité vient de nous dire là.
Oui,
et la deuxième question est celle-ci. Ça fait au moins une année, j'avais passé au parc des Virunga et j'ai trouvé juste aux barrières, à la barrière, j'ai trouvé des éléphants qui sillonnaient juste à côté des feux parce que l'invité nous a dit que juste quand les éléphants voient du feu, ils prennent directement fuite.
Et vous avez vu des éléphants sillonner à côté du feu, c'est ça?
Oui, ils passaient juste à côté du feu, parce qu'on nous avait arrêté juste là, à côté de la barrière.
Voilà, il n'y a qu'une autre question, Pascal, ou bien c'est bon, ça suffit?
Non, c'est tout comme question.
Voilà, merci Pascal d'avoir appelé de commandant à Nitori. Merci. Clément Day, vous êtes à Kananga. Bonjour Clément.
Marcel Ngombombala, bonjour aussi à l'invité de la Radio Kapi.
On vous écoute.
Selon l'introduction de l'invité de la Radio Kapi, je l'ai entendu parler des maratassés. Est-ce que selon les maratassés en question qu'il vient de parler, y a-t-il des propriétés thérapeutiques qui peuvent normalement aider les éléphants à résister à presque tout ce qu'on peut rencontrer comme maladie? La première question. La deuxième question, c'est vrai que selon les normes de l'élevage ou de culture, il ne faut pas que nous puissions nous mettre en concurrence avec notre élevage. Mais pourquoi dans beaucoup de zones, on permet à ce que les éléphants puissent vraiment ravager les cultures, puissent vraiment tuer les gens? Pourquoi il n'y a pas un bon encadrement? Pourquoi on ne veut pas normalement respecter ces normes-là? La troisième des questions, c'est selon le constat de l'invité de la radio Kapi, j'espère qu'il sera très spécialiste en ça. Est-ce que l'a constaté dans tout ce que nous avions comme parc, nous avons combien au total de quoi les éléphants? Nous en avons déjà combien au total? Si on nous entend toujours parler dans tel parc, il y en a, on ne sait pas combien nous en avons, estimé sur la surface de la République démocratique du Congo. Voilà ce que je voudrais juste demander à l'invité. Merci de m'avoir accordé la parole, Marcel Ngombombala.
Merci Clément Day depuis Kananga. Professeur Mutamboué. Shango, on revient à vous.
Je recommence par la première question. Mon cher ami Prince.
Oui.
Vous savez, il y a une expression, tout le monde qui parle, on vous dit, vous avez une mémoire d'éléphant. Ce sont les hommes qui parlent. Et cette expression doit vous faire réfléchir 10 fois. Les éléphants sont très intelligents. Je dis bien, nous sommes des hommes et on croit qu'on est seul intelligent. Non. Le mot intelligent vient du mot latin. Tous ceux qui ont fait le latin vont m'applaudir parce qu'on dit que le latin est mort, mais ça nous permet de comprendre. Le mot intelligent veut dire intelligere, comprendre. Un éléphant qui a son boulevard, qui se déplace tous les jours là-bas, et qui est, si vous cherchez le pourquoi de son déplacement, vous trouvez que là, par exemple, il n'a pas d'ennemis, là, il trouve à manger, là, il peut faire passer ses petits et tout consorts, vous trouvez que cet animal n'est pas intelligent.
Il a parlé de l'instinct, c'est l'instinct qui le conduit dans tout cela.
Ah non, il faut déjà être éléphant pour pouvoir savoir l'instinct c'est quoi. Ça, c'est l'imagination de l'homme. Mais j'ai dit le mot intelligere, c'est comprendre. Moi, j'ai dit l'éléphant qui vient, par exemple, nous qui là où je viens du Gabon, monter la réserve. On sait qu'à telle heure l'éléphant vient se déplacer, à telle heure il sait que il doit quitter. C'est la compréhension des conditions écologiques. C'est ce que nous cherchons, c'est ce qu'on appelle l'éthologie, l'étude du comportement. Ok? Mais par contre, ce n'est pas parce que vous avez été à l'école que vous êtes intelligent. Non. L'école, nous sommes instruits à l'école, mais c'est, l'école ne nous rend pas intelligents. Sinon, on dirait que nos ancêtres qui n'ont jamais été à l'école étaient des cons, n'étaient pas intelligents. Donc, je crois qu'il faut distinguer ces histoires-là. Les éléphants sont des animaux très intelligents. Preuve en est que l'homme dit que on a l'intelligence d'éléphant.
Bon, il y a Pascal qui a cherché à qui a appelé des commandes là, des commandes à Nitouri, bon. Qui a parlé de la transhumance et du boulevard.
Vous savez, je ne sais même pas. Je viens de Brazzaville où il y a ce qu'on appelle un paysage qu'on appelle Tridon. Mais les éléphants circulent dans trois pays différents. Dans ces paysages-là. C'est quoi? Moi, je parle ça des, les termes scientifiques, on parle des paysages, l'éléphant part d'ici, et lorsque les, par exemple, en Centrafrique, les éléphants sont trop chassés. Mais vous ne verrez pas les éléphants la journée en Centrafrique. Mais ils vont traverser du côté du Congo et du Cameroun. C'est quoi? Ils sont en insécurité la journée en Centrafrique. Donc, ils vont là où c'est, il y a la sécurité et la nuit, ils viennent en Centrafrique. Et là, vous suivez, bon, je dis, si vous lisez un peu les documents, il y a un travail qui a été fait là, dans ces pays-là. Vous avez des images satellites avec les différents boulevards. Où ils
c'est là la transhumance ou c'est ça que je veux savoir quand on passe,
Bon, je ne sais pas. C'est que moi, pour moi, c'est un déplacement normal. Dû à des conditions écologiques, des conditions du milieu dans lesquelles ils vivent. Si c'est ça, alors ça doit être la même chose. Bon.
Il a parlé également du feu. Vous avez dit
le feu. Je regrette. Quand j'étais directeur de l'ERAIFT, j'ai fait venir, j'ai donné la bourse aux étudiants de l'ERAIFT. Dont un qui travaillait, qui travaille aujourd'hui, il est grand responsable à l'ICCN. À l'époque, il travaillait comme responsable d'inventaire des grands mammifères, dont les éléphants au parc de Maïko. Je crois que il a fait un travail extraordinaire. Il peut vous dire que c'est la technique la plus facile. La plus aisée qu'on utilise dans cette réserve nouvellement créée pour chasser les... Bon, peut-être quand ils viennent et qu'ils se rencontrent avec le feu, ben, ils ne vont pas aller vers là, ils vont se déplacer ailleurs. C'est normal. Mais, ils ne sont pas attirés par le feu. S'il avait dit qu'ils étaient attirés, bon, je comprendrais. Mais... S'ils sont des passagers qui trouvent le feu, c'est normal qu'ils se croisent tous là-bas, au même endroit, mais pendant que ils vont se déplacer ailleurs.
Alors, là, vous avez également parlé de Maratassé, je crois, c'est ça.
Maratassé.
Oui, c'est quoi cette feuille? Et puis, il veut savoir.
Mais
le rôle.
C'est ce que vous, Marcel, vous qui m'a, bon, c'est le nom scientifique qui vous manque, mais je n'ai pas le nom français. Mais les feuilles là qu'on utilise pour faire les maboukés.
Ah, d'accord.
C'est ça le maratassé.
Mais alors, il faut savoir le rôle, pourquoi vous avez évoqué
mais
cette feuille-là.
Ça fait partie de feuilles que les éléphants mangent. Même nous aussi, nous les humains, les gens qui me suivent à Bouindé vont vous dire que c'est vraiment, surtout le maratassé jeune-là, ça se mange très bien. Donc, c'est un aliment. Est-ce que ça fait soigner les éléphants? Ça, je ne sais pas. Mais c'est un aliment privilégié pour les éléphants.
Voilà, parce qu'on va prendre la dernière vague d'auditeurs. Nous avons Gilbert qui nous appelle de Matadi, Rouzi Bouka qui est à Bukavu et Léon Tabou qui est à Arou. Gilbert, bonjour. Bonjour Gilbert.
Oui, bonjour.
On vous écoute Gilbert, quelle est votre question?
Oui, merci beaucoup pour la parole que vous nous accordez. En fait, ce sujet nous intéresse nous aussi, quoi que nous sommes en Matadi et que nous sommes un peu à l'abri des éléphants. Mais le sujet est tellement important que c'est pourquoi nous voulons aussi intervenir.
Allez-y, posez votre question.
Nous avons, moi personnellement, j'ai suivi votre émission en cours. Je voudrais poser une question à notre invité. Celle de savoir si le gouvernement congolais a quand même pris des, a quand même prévu des mécanismes, ou sinon des mécanismes pour protéger la population qui fait l'objet des ravages des éléphants. Parce que nous savons du moins qu'il y a quand même une loi qui protège les éléphants. Est-ce que notre gouvernement a-t-il pris des mécanismes pour protéger cette population-là qui fait l'objet des ravages des éléphants? Parce qu'autant protéger les éléphants, il faut aussi protéger les humains qui vivent de leur champ, mais qui malheureusement, qui subissent des préjudices pour les ravages des éléphants.
Voilà, merci Gilbert Mayangi depuis Matadi. Rosie Bouka, vous êtes à Bukavu. Bonjour Rosie Bouka.
Oui, je disais c'est Rosie Bouka, je suis à Walungu, monsieur le journaliste.
Et d'accord, on vous écoute.
Oui, bonjour d'abord, monsieur le journaliste et à l'invité.
Allez-y, quelle est votre question?
Oui, j'allais demander à l'invité. Une fois maintenant, c'est quoi? C'est les éléphants qui ont filé, quoi, leurs milliers d'hébergements. Et qui ont fait un massacre dans un milieu quelconque. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est remis à quoi, aux familles perdantes de l'air de quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose, j'allais demander à l'invité s'il y a quelque chose qui est remis à la famille qui a perdu les l'air. En plus de ça, j'allais demander encore une fois à l'invité. Une fois qu'on a tué un éléphant, les personnes qui l'ont tué, ils peuvent couper une peine de combien de mois ou combien d'années ou combien de journées, c'est l'invité. C'était ça pour nous.
Merci Rosie Bouka. Léon Tabou, vous êtes à Arou. Bonjour Léon.
Oui, merci beaucoup. Merci. Je suis étudiant à l'université de Sepromade. Je vais intervenir rapidement parce que je suis très ravi de l'explication de ces brillants chercheurs. Vraiment, toutes les cibles qu'il est en train d'expliquer, c'est très vrai. Parce que moi, j'ai vécu quand j'étais jeune, il y a un centre là de rééducation des éléphants à Nagero, à Dongo. Il y a des fois, vous voyez que les gens là qui sont des responsables, peut-être appeler l'éléphant, il arrive, on les dirige, s'assoit, et puis vous montez sur l'éléphant. Vraiment, c'est très vrai, parce que j'étais encore jeune à l'âge de 19 ans. Lorsqu'on sortait de côté de ce centre-là, il y a les chercheurs, les responsables qui encadrent le parc national de Ganara Nabodou vers Dongo là-bas. Alors, on dirige le serpent, l'éléphant, il peut s'asseoir, et vous montez sur l'éléphant, même rayon de 100 mètres, et vous revenez encore, vous descendez. Bon, ce sont des animaux qui sont vraiment intelligents parce qu'ils sont dirigés par l'homme. L'homme est maître de la nature. Ce que le chercheur a dit, c'est très vrai. Mais est-il qu'il y a aussi beaucoup de solutions qu'on peut faire pour évacuer pour essayer de chasser les éléphants. Donc, les éléphants ne veulent pas entendre beaucoup de bruit. Quand il y a des bruits, des tam-tams, il y a le feu, ils s'enfuient. Bon, ce sont des remèdes. Comment voulez-vous une superficie de 1000 km², tout ça, vous allez mettre des fils de barbelés pour protéger les éléphants d'un pas passer d'un côté à l'autre? Non, ce sont des remèdes très vrais. Et puis l'éléphant, il y a d'autres éléphants qui pèsent 4 tonnes, même 6 tonnes. Alors vraiment, je suis très ravi de chercher, les grands chercheurs, on encourage les esprits à ceux qui l'entrée de nous donner, c'est très vrai. Parce que moi-même, j'ai au parc de Ganara de Bodici à Isiro, dans les territoires de Dongo, c'est un grand parc qui a beaucoup même des éléphants. Il y a même des éléphants qui vous pèsent 4 tonnes, 5 tonnes et demi. Alors, voilà. Ça, c'est la nature. Ça, c'est vraiment des choses très importantes que Dieu nous a réservées. Mais, est-il qu'il y a des cibles là, des solutions? La solution qu'il a donné, que les éléphants ne veulent pas voir la lumière. Ça, c'est très vrai.
Merci, Léon Tabou. Merci de nous avoir appelé de l'arbre. Professeur, alors, on revient à vous et puis ça sera l'occasion aussi de conclure par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que vous, vous avez soulevé cette question oui, Gilbert a demandé à Gilbert, lui qui est à Matadi, qui a parlé, est-ce qu'au niveau du gouvernement, il y a des mécanismes mis en place pour... c'est vrai qu'on protège les éléphants, mais aussi des mécanismes mis en place pour protéger la population.
Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Le projet, il y a un projet géré par notre compatriote, qui est basé au Cameroun. Le conflit homme-éléphant. On tente de faire tout pour éviter ce genre de trucs, mais comme le dernier orateur vient de dire, ben, écoutez, nous avons un grand pays. Même dans les petits pays, ce n'est pas évident de trouver vraiment des méthodes scientifiques telles que, j'ai dit, il y a des gens qui parlent de fils électriques, non. Mais les techniques, comme mon cher frère, le dernier orateur a dit, ça, ce sont des techniques que, je vous dis, moi, je l'ai utilisé quand j'étais petit et je l'utilise en tant que chercheur. Je,
ça, ce et, sont et, des et ça marche.
Et ça marche.
Alors, peut-être un petit commentaire par rapport à Roger Bouka, lui qui a demandé, lorsqu'on est victime de ces ravages, est-ce que le gouvernement pense à ramener quelque chose?
Je l'avais déjà dit, que les lois que nous avons prévoient les conséquences pour les braconniers. Bon, si vous pouvez voir, je ne suis pas juriste, mais dans tous les tribunaux, tout est donné là-bas. Vous pouvez suivre ça sans problème. Malheureusement, on ne prévoit rien pour les victimes, ce qui est dommage.
Alors, voilà. On retient que le mouvement Citizens Défense, c'est un conflit qui existe depuis longtemps. C'est un mouvement normal, mais il y a des petites méthodes, des petites pratiques. Simple, on peut chasser des enfants. C'est d'abord, on peut allumer du feu.
Ouais.
On peut allumer du feu. Les éléphants n'aiment pas le feu. Donc
les tambours aussi.
Les tambours aussi, c'est pas le bruit.
Le bruit, quoi.
Voilà, il faut vraiment du grand bruit, alors.
Hein. Oui. Mais si vous voulez les attirer, je dis sans blague. Chez moi, on a abatté les palmiers.
Oui.
Et quand l'éléphant vient, il boit le vin de palme, ben vous trouverez l'éléphant gai en train de danser. Hein? C'est intéressant de voir ce genre de truc pour le tourisme au moins.
Voilà. Hein? Merci, professeur Mutambu Shango. Vous êtes environnementaliste avec vous. On a abordé cette question sur comment bien encadrer les mouvements saisonniers des éléphants en RDC. C'est un réel plaisir de vous avoir dans ces studios. Merci. On vous retrouve prochainement.
Merci.